Les voies de service, mercredi 4 juillet 2018. Eh oui, c'est le 4 juillet, l'anniversaire de nos voisins américains.
C'est vrai, c'est leur anniversaire.
Pour la
c'est
petite vrai. Touche ben éditoriale oui. dans mon souhait. Et bien oui, au micro, Isabelle Falardeau, en compagnie aujourd'hui de Serge Bradet.
Bonjour,
Daniel
bonjour.
Lachance nous a laissé tomber. Non, il est en train de se reposer à la maison. Mm-hmm. Et bien, on a Maurice Bolduc à la mise en onde aujourd'hui. De quoi vous allez nous parler? Est-ce que vous êtes encore... vous les avez fait le tour de la Saint-Jean, de 1er juillet?
Confédération.
Y va avec le 4 juillet ou...
Non. Ben, j'aurais pu, mais j'avoue que je n'ai pas accroché.
Il n'y a pas de problème.
je pourrais me réserver pour le 14 juillet, par exemple, pour la France.
ça m'intéresse. Ça m'intéresse
oui.
un
on
peu.
On verra si je
Alors,
je
de quoi vous allez nous parler aujourd'hui, Serge?
Ce matin, il y a quelque chose qui va être légalisé bientôt. Hein. On en a parlé beaucoup, beaucoup. Le...
Cannabis. Dire certaines substances.
Ben oui. Alors, j'ai trouvé de la documentation pour vous parler de ça, de l'histoire du cannabis, mais aussi la relation avec le chanvre.
Le chanvre.
Oui,
le
chanvre et cannabis.
Apparemment que sans le chanvre, le Québec, on n'aurait pas été découvert, en tout cas par les
Le chanvre est une industrie. Et la déclaration américaine d'indépendance a été écrite sur du papier de chanvre.
Ah oui, on a vraiment hâte d'en entendre plus.
Ensuite, dans la presse plus, la petite histoire du ventre de Montréal, le marché Jean Talon.
Ah oui.
Oui, intéressant. Et puis, en terminant, comme on n'est que deux, on a du temps. Merci, Daniel, d'être resté à la maison. Alors, 8 énigmes sur l'unicité canadienne.
L'unicité canadienne, oui. J'ai vraiment hâte d'entendre ça parce que c'est pas évident de cerner l'unicité d'un pays aussi multiethnique.
Oui.
Merci beaucoup. De mon côté, je vais peut-être vous faire des petites suggestions de vacances dans la nature autochtone. Je vais vous parler encore une fois de moyens qui sont pris pour revitaliser le Mohawk, cette langue qui était menacée il n'y a pas si longtemps et qui commence à revenir plus en force. Et puis, je vais vous parler du Pierre Lavoie autochtone. Vous connaissez Pierre Lavoie, évidemment, avec son défi qui fait bouger nos jeunes chaque année et nos moins jeunes chaque année.
Oh, oui.
Alors, je vais vous parler de Roger Vachon, qui est un peu le Pierre Lavoie québécois. Autochtone, pardon. Alors, voulez-vous commencer, Serge? Non, vous voulez que je commence?
Non, oui, parfait. Oui.
On se fait des signes.
Oui,
là.
Oui.
Alors, j'y vais avec, justement, La quête de Roger Vachon. C'est un article de Jonathan Hudon que j'ai pris dans Le Quotidien et qui a été publié le 16 juin 2018. C'est très drôle parce que ça dit sur le site. Excusez-moi, je le partage avec vous. 16 juin 2018, mise à jour le 15 juin. Alors, ça a été mise à jour avant d'être publié, j'aime beaucoup ça. On n'avait pas besoin de le savoir, finalement. Les communautés autochtones auraient-ils trouvé leur version inoue de Pierre Lavoie? À écouter la vision que partage Roger Vachon, tout porte à croire que oui. Monsieur Vachon, de la réserve indienne Ouachat-Maniotenam, située non loin de cette île sur la côte nord, est derrière la création de la toute première équipe 100% autochtone à participer au grand défi Pierre Lavoie. La formation MAMU, qui signifie « ensemble » en inoue, compte dans ses rangs 5 Inuits, dont Roger Vachon. Les autres sont Gilbert Dominique, ancien chef de bande, et Firmin Launière de Mashteuiatch. Excusez-moi, aujourd'hui, j'ai de la misère. C'est des mots que je prononce chaque semaine. Mashteuiatch.
Oui, vous ne pouvez pas ça chaque semaine, oui.
Ainsi que Yann Riverain et Marie-Claude Riverain, un couple de Pessamites. Lors d'une rencontre avec Pierre Lavoie, je lui ai suggéré de former une équipe entièrement autochtone, en mise en contexte de Roger Vachon. Au départ, on était censé être impliqué avec le chirurgien Inou, Stanley Volant, mais il ne pouvait pas. J'ai dit à Pierre de nous donner une équipe quand même, qu'on allait s'arranger. La collègue Joanne Saint-Pierre avait d'ailleurs rédigé un papier en novembre dernier sur la volonté du docteur Volant de former une équipe autochtone au GDPL Grand Défi Pierre Lavoie. Le projet, même s'il a connu des modifications au fil des mois, s'est concrétisé. Ce qu'on vit ici, c'est malade, a réagi Roger Vachon avec enthousiasme. Et ce qu'on a vécu à Mastoyatch, c'était quelque chose de très émouvant. Je n'ai jamais été aussi fière d'être Innu. Roger Vachon est aujourd'hui un modèle et une référence en course à pied pour plusieurs communautés autochtones. Ce ne fut toutefois pas toujours le cas. À environ 240 livres au tournant de la quarantaine, il décide de se reprendre en main. La course est devenue son nouveau mode de vie. Il a ajouté le vélo au fil des ans et il pèse environ 150 livres. Alors, il a perdu 90 livres, M. Vachon.
Aïe, aïe!
C'est pratiquement la moitié de l'homme qu'il était.
Mm-hmm.
« Je n'ai jamais été aussi en forme et aussi heureux », a signalé le principal intéressé. Fondateur du marathon Mamu, à cette île, je ne sais pas si ça se prononce Mamu, c'est M-A-M-U, à cette île et de plusieurs autres événements sportifs, Roger Vachon souhaite créer une entreprise consultative axée sur la promotion des saines habitudes de vie. C'est ce que j'ai le goût de faire et Pierre Lavoie a dit qu'il allait travailler avec moi. J'en suis très fière, a raconté Roger Vachon, préoccupé par l'état de santé au sein des communautés. Ce qui m'inquiète beaucoup actuellement, c'est l'embonpoint et le diabète qui tuent beaucoup. Stanley Volant croit que d'ici les 10 prochaines années, 8 personnes de notre communauté sur 10, 8 sur 10, vont être atteintes du diabète. Ce que j'ai le goût de faire, c'est d'aider les gens. J'aime ça et c'est ce que je veux transmettre avant de partir. Alors, Serge.
Oui, alors, différence, c'est un article que j'ai trouvé, il y a plusieurs sources, dont la revue Science, dernière édition, 7 juin 2017. Donc, ça s'intitule « Différence entre chanvre et cannabis ».
Ah oui, très intéressant.
Alors, le chanvre et le cannabis sont souvent confondus, même si elles ont une multitude d'applications différentes ayant le potentiel de changer le monde médical et industriel. Ces deux plantes partagent les mêmes racines. Alors, le cannabis sativa est probablement la plante la plus profonde et pourtant controversée avec laquelle l'humanité a eu une relation si intime et longue. Elle a catalysé une montée de l'industrie pour les colonies américaines en apportant du papier, du carburant et en servant aux voiles et cordages des navires.
Mais oui, c'est ça.
Ouais. Du papier de cannabis était le canevas sur lequel la Déclaration de l'indépendance américaine a été rédigée. Ses utilisations remontent loin dans l'histoire, à la fois comme outil et comme remède aussi, au moins jusqu'à 4000 ans avant Jésus-Christ en Chine.
Ça fait longtemps, ça, quand même.
Où des empereurs écrivaient ses louanges. Après une période de vaste suppression, cette plante alliée recommence à s'épanouir en liberté. De nombreux pays sur Terre commencent de nouveau à l'étudier, et à l'utiliser pour ses propriétés médicinales et industrielles. Cependant, de nombreux gouvernements dans le monde persécutent toujours les consommateurs et les cultivateurs, en les enfermant en prison pendant longtemps s'ils exercent leur droit souverain à cultiver du cannabis pour ses apports diététiques et médicinaux. En raison de la censure injuste et de décennies de propagande vicieuse, beaucoup de confusion et de distorsion des faits se sont installées au sujet de la nature de cette plante aux multiples facettes. Une zone particulière qui reste fortement mal comprise est la différence entre ce qui est souvent appelé « chanvre » et ce qui est reconnu comme étant du cannabis ou de la marijuana. En réalité, ces deux choses en sont une seule et la même. Ce qui diffère, c'est leur composition génétique. Ces différences ont surgi en raison de l'adaptation à des changements dans l'environnement avec des siècles de croisements sélectifs. Le facteur qui divise cette plante en deux catégories séparées est la quantité de tétrahydrocannabinol.
Le THC.
Oui, ou THC qu'elle produit. Cet acronyme à trois lettres devrait faire dresser les oreilles de nombreux consommateurs de cannabis et profanes, car cette molécule est ce qui donne aux plantes de cannabis sa capacité à produire la sensation psychoactive du fameux effet défonce.
C'est comme le pourcentage d'alcool. Là, on va surveiller le pourcentage de THC. Si jamais on décide de consommer du cannabis, bien sûr, on n'est pas obligé.
Non. Le chanvre est en général cultivé en extérieur et demande très peu, voire pas de produits chimiques pour être cultivé. Un gros avantage.
Oui.
Et c'est une puissance industrielle qui a été et qui continue à être utilisée pour produire un large éventail de produits, des aliments au carburant en passant par le papier.
Mais ça peut être une option très écologique pour les vêtements, par exemple, parce que
Absolument.
justement, on fait des tissus qui peuvent être avec des plantes qui peuvent
Ouais.
avoir poussé de façon biologique.
Oui. Je vais aller un peu plus loin dans l'article, parce que l'article est assez long. Alors, le chanvre a aussi la capacité à rendre le coton, un tissu utilisé dans le monde entier, totalement inutile.
Ben oui,
Parce
c'est
que,
ça.
ce que vous venez de dire, oui. Le coton demande de grandes quantités d'engrais, d'herbicides et de pesticides nocifs pour être cultivé. Et le chanvre, lui, presque pas, comme on l'a dit plus
C'est
tôt.
presque à se demander pourquoi est-ce qu'on a beaucoup plus de coton que de chanvre. Est-ce que
Mais.
c'est adressé dans l'article? C'est ça parce que
Non, j'en parle
j'ai
pas.
entendu, je ne sais pas à quelle émission historique, où on parlait de la guerre que les producteurs de coton ont menée contre le chanvre.
Ah,
Donc, c'est un peu un lobby qui a
ben
fait
c'est ça.
que.
Ben oui,
Mais
c'est
en
ça.
même temps, c'est
C'est bien
incompréhensible
dommage.
puisque ce que vous venez de dire, là, la dépense en énergie que ça demande pour produire le coton, plus la pollution.
Alors, c'est
Ah là
donc
là.
une énorme menace pour l'écosystème. En plus de produire plus du double de la récolte de coton par acre, le chanvre a besoin d'aucun de ces produits chimiques désastreux pour
Mais
être
oui.
cultivé, car il est fortement résistant aux menaces externes. Le chanvre est un matériau bien plus durable que le moton, que le
J'aime
coton
beaucoup votre
d'ailleurs,
lapsus.
que le moton d'argent, que le
Oui,
coton
c'est ça.
d'ailleurs, oui. Et le chanvre est aussi un matériau de construction durable incroyable. Je cite ici là, matériau composition relativement nouveau, fabriqué avec un mélange humide de bois de chanvre, avec un liant à la chaux. Le béton de chanvre, ou hempcrete, apporte un matériau d'isolation naturelle,
Wow.
perméable à la vapeur et hermétique, qui a aussi une masse thermique, ce qui lui donne des performances thermiques à l'efficacité unique.
Donc ça veut dire pour garder la chaleur ou pour empêcher le...
Oui.
C'est ça.
Utiliser du béton de chanvre dans votre construction crée un environnement intérieur sain, sans produits chimiques ni
Ben oui.
humidité. C'est un matériau à l'empreinte carbone négative qui emprisonne plus de carbone atmosphérique durant la durée de vie de la construction qui a été émise durant sa construction. Durant la durée de vie de la construction que ce qu'il a été émis. Ah, OK, durant la construction.
Oui, c'est
Mis
ça.
et émis. Le chanvre peut également être utilisé pour créer une forme de biocarburant qui est plus respectueux de l'environnement que le carburant au pétrole et ses émissions se décomposent évidemment bien plus rapidement. Le chanvre, au niveau de l'alimentation, le chanvre produit une graine qui est consommée dans le monde entier comme source d'aliments bénéfiques et nutritifs, souvent pressée sous forme d'huile, l'huile de chanvre.
Oui.
La graine de chanvre pourrait facilement être classée comme super-aliment grâce à son excellent produit nutritif. Elle contient de hauts niveaux de calcium, de fer, de zinc, de magnésium, ainsi que de fibres. La graine de chanvre est une protéine complète qui renferme 21 acides aminés, dont 9 sont des acides aminés essentiels,
Donc, tous les neuf essentiels.
ouais, que le corps ne peut pas produire et qu'il doit obtenir d'une source extérieure. Pour cette raison, c'est une excellente source durable de protéines pour les végétariens.
Et ça, c'est sans compter la teneur en oméga-3 et oméga-6. Et moi, j'ai un pot de graines de chanvre sur
Ah
ma
ouais?
table de cuisine avec
Ah
le
ouais?
sel et le poivre, oui.
Ah,
C'est
vous l'avez
vraiment...
intégré vraiment à votre
Oui,
alimentation.
ben moi, je ne mange pas de viande, alors oui, c'est
Ah
très,
oui.
très bon.
Le chanvre contient aussi de bonnes quantités d'acides gras oméga-3 et oméga-6 qui sont cruciaux pour entretenir
Voilà,
une
c'est ça.
santé optimale et pour éloigner tout un éventail de maladies et troubles de santé. On parle aussi de guérison environnementale. Est-ce que j'ai le temps? Je peux déborder un peu?
Allez-y,
Oui,
oui,
OK.
vous avez le temps.
On parle de guérison environnementale. Donc, en plus de soigner potentiellement les humains, le plant de chanvre pourrait être la réponse pour aider à soigner la Terre des
Ah
dégâts
oui.
environnementaux provoqués par notre espèce. Le chanvre a des propriétés de biorémédiation, ce qui signifie qu'il peut aider à réparer et remédier l'environnement. Par exemple, il a été prouvé que le chanvre, en conditions de laboratoire, peut éliminer de grandes quantités de métaux lourds comme le plomb du sol.
Ça, c'est une excellente qualité parce que c'est ça, on fait des recherches en ce moment pour quel type de plantes sont les plus efficaces quand on les plante dans des sols contaminés.
Le chanvre peut également aider à stabiliser et enrichir le sol et empêcher l'invasion d'espèces envahissantes grâce à sa canopée haute et intense, ce qui peut permettre d'éviter d'utiliser des herbicides toxiques.
Ça pourrait peut-être être une réponse à cette fameuse renouée du Japon dont on parlait encore dernièrement, là, qui est pratiquement impossible à éliminer. Peut-être qu'on pourrait faire des murs de chanvre pour empêcher la renouée de se répandre.
Oui. Maintenant, pour les maladies, pour l'humain, là, le site du gouvernement américain Cancer Government déclare ouvertement que les cannabinoïdes affichent des propriétés anti-tumeurs en déclarant « Les cannabinoïdes pourraient provoquer des effets anti-tumeurs par divers mécanismes, dont le fait d'induire la mort des cellules, l'inhibition de la croissance des cellules et l'inhibition de l'invasion tumo-grand-gigenèse et des métastases. » Il pourrait servir également pour l'épilepsie. Aider pour les gens qui font des crises d'épilepsie.
Ah,
on
oui.
dit, oui, une enquête menée à l'Université Stanford a trouvé que les parents qui avaient donné à leur enfant... Ben là, ouais, attention, là.
Est-ce qu'on peut vraiment prendre la chance de faire
ouais,
ça?
Oui, ben c'est ça, oui. À leur enfant, du cannabis riche en CBD avait vu de grandes améliorations dans la condition de leur enfant. 18 parents ont été interrogés. 83% ont indiqué une diminution de la fréquence des crises sans effet secondaire. Bon, prendre ça des
ben là, c'est sûr, sans effet secondaire, évidemment, on sait que ça a quand même des effets sur le cerveau des enfants, là, mais c'est, dans ce temps-là, il faut tout le temps peser le pour et le contre des problèmes versus les...
Parlant de cerveau, maladie d'Alzheimer.
Oui.
Le cannabis est maintenant envisagé comme un moyen de traiter la maladie d'Alzheimer, selon des études récentes. Une étude du Salk Institute a trouvé que le THC réussissait à soulager l'inflammation et l'accumulation de la plaque dans des neurones cultivés en laboratoire. Ces facteurs étant clés dans le développement de cette terrible maladie.
Ça, c'est une des bonnes choses du fait de la légalisation, c'est qu'on va vraiment pouvoir faire de la recherche de façon beaucoup plus libre et peut-être qu'on va effectivement découvrir des propriétés pour la santé.
Ensuite, en dernier, la douleur. Le cannabis est une des plantes les moins dangereuses qui existent et il semble impossible de faire une overdose de ses composés actifs, dit-on. C'est vrai qu'on n'entend pas les gens.
Mais j'ai déjà lu ça ailleurs aussi. Que...
Ce fait contribue à son utilisation comme médicament contre la douleur, surtout quand on prend en compte le nombre élevé de décès provoqués par les médicaments antidouleur chaque année. Et il y a une conclusion, le futur est cannabis. Alors, bien que différent génétiquement, le chanvre et le cannabis sont vraiment la même plante, sous des formes adaptées différemment. Malgré les efforts draconiens déployés pour éliminer cette technologie naturelle et l'éloigner du grand public, les choses changent. Le cannabis a le potentiel pour dominer la sphère médicale une fois que la recherche aura vraiment libéré ce dont il est capable. Alors que le chanvre trouvera sa position sous les projecteurs en tant qu'outil protecteur et innovant capable d'arrêter l'ignorance de l'humanité et de former une approche symbiotique pour vivre main dans la main avec le monde naturel au lieu d'essayer de l'écraser.
Excellent, merci beaucoup, très intéressant.
Le soleil de ma vie, tu es le soleil de mes jours,
tu es le soleil de mes nuits, tu es le soleil de l'amour, c'est comme si depuis plus d'un million d'années,
c'est comme si nous nous étions trouvés
en nous cherchant depuis la nuit des temps.
Oh, 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 oh. Tu es le soleil de ma vie.
Premier jour.
Oh, 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 comme si je t'avais reconnu. Quand je t'ai vu venir à mon secours. Soleil de mes nuits.
Tu es le soleil de l'amour.
Oh, 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 oh. Tu es le soleil de ma vie. Tu es le soleil de ma vie.
Tu es le soleil de ma vie, chanté par Sacha Distel et Brigitte Bardot.
Vous avez un peu de front, Maurice, de nous faire jouer une chanson sur le soleil par une journée comme aujourd'hui.
Je vais être dans l'atmosphère.
Oui, c'est ça, vous avez tout à fait à propos. Moi, je vais vous parler de... il y a du soleil sur la photo qui accompagne mon article. ça ne veut rien dire. Alors, c'est ça l'article que j'ai choisi de partager avec vous. Revitaliser le Mohawk, une pancarte à la fois. C'est un article qui a été publié le 13 juin et que je gardais dans ma manche, et c'est signé Laurence Niozzi. Depuis quelques mois, une vingtaine de nouvelles pancartes de signalisation en Mohawk, ou Kanyenkehá, comme se dit Mohawk en Mohawk, ou en Kanyenkehá, ont fait leur apparition à Kanawake, au sud de Montréal. Le projet de revitalisation de la langue, mis sur pied par une simple citoyenne, est l'une des multiples initiatives d'une communauté qui se bat depuis des décennies pour garder sa langue en vie. Gardez votre chien en laisse, veuillez recycler, attention aux enfants. Kanawake est un peu plus Mohawk grâce aux pancartes de Kali Kariwiosta Montour, une résidente de la communauté qui a appris la langue de ses ancêtres à l'âge adulte. Avec l'aide du conseil de bande, la jeune femme de 29 ans a dessiné et installé 20 pancartes dans la communauté de 8000 personnes située tout près de Châteauguay. L'idée, exposer les jeunes au Mohawk dans une collectivité où la langue a longtemps été en déclin. Je me suis dit, s'ils reconnaissent au moins le pictogramme des pancartes en anglais ou même en français, ils vont savoir ce que ça signifie en Kanyenkehá, affirme la jeune femme. Hein, si on a déjà vu un panneau « stop » avec « on sait que ça veut dire stop », et si on voit le mot en Kanyenkehá, on va savoir que ça veut dire « arrêter ». Par exemple. C'est d'ailleurs en partie avec des pancartes que Kali a appris le français. Je voyais surtout des mots à l'extérieur de la communauté, au supermarché par exemple, ouvert, fermé, hors service, dit la résidente de Kanawake, où la loi 101, comme dans les autres communautés autochtones, ne s'applique pas. Et d'ailleurs, on se rappelle peut-être pas tous parce qu'il y en a pour qui c'est plus loin, mais quand on était enfant et qu'on a commencé à lire, à apprendre à lire, on regardait les pancartes pour se pratiquer, on découvrait la langue avec tout ce qu'on voit tous les jours finalement. Alors, après avoir fait des études au Collège Dawson et à l'Université Concordia, Kali a décidé de mettre sa carrière en veilleuse, le temps de suivre un programme d'immersion pour adultes à temps plein pendant 2 ans. J'avais des diplômes, mais je sentais que quelque chose me manquait. Je ne parlais pas ma propre langue. C'est ainsi qu'elle a eu la piqûre. Depuis, elle enseigne la langue, fait des traductions et anime toutes les semaines une émission entièrement en Mohawk à la radio locale K103. Les efforts pour revitaliser le Mohawk ne datent pas d'hier. L'école Kariwanoron a vu le jour il y a une trentaine d'années et offre un programme d'immersion en Mohawk du préscolaire jusqu'à la 6e année. Les 4 autres écoles de Kanawake proposent des cours d'initiation à la langue Mohawk. Depuis 40 ans, le Centre linguistique et culturel, appelé Kanyenkehaka Onkwaneugna Raotiohokwa, excusez ma prononciation, est chargé de préserver la langue à travers divers programmes éducatifs, comme une émission de marionnettes en Mohawk à la télévision locale, ça aussi c'est une belle initiative, ou encore des cours d'immersion pour adultes. Les mêmes qu'a suivi Kali Kariwosta Montour il y a quelques années. Un programme de Ni Linguistique, ou Language Nest en anglais, destiné aux parents et aux enfants, ou même aux femmes enceintes, a également été mis sur pied il y a 4 ans. Malgré ses efforts, la langue Mohawk est en danger, révèle une étude parue le mois dernier en partenariat avec le Centre d'éducation de Kanawake. Le rapport utilise une grille d'évaluation échelonnée sur 8 niveaux, qui tient surtout compte de la transmission de la langue des parents aux enfants. Le Mohawk se situe au niveau 7, le niveau 8 étant le stade de déclin de la langue le plus avancé. Alors, je me suis un petit peu fourvoyée tout à l'heure quand j'ai dit qu'elle était hors de danger, la langue Mohawk, c'est pas le cas. Aujourd'hui, à Kanawake, une poignée d'aînés seulement ont encore comme langue maternelle le Mohawk, un déclin qui s'explique par plusieurs facteurs, les pensionnats et la prédominance du français et de l'anglais qui s'imposent comme langue de travail et d'occasion d'affaires, entre autres. Kasenan Awe Skydeer, chef du conseil Mohawk de Kanawake, assigné à la défense du patrimoine, estime qu'environ 200 ou 300 personnes de la communauté parlent la langue couramment. On se rappelle que c'est sur un total d'environ 8000 personnes. La situation n'est guère plus reluisante ailleurs au Canada. Dans le recensement de Statistique Canada de 2016, 875 personnes ont déclaré avoir le Mohawk comme langue maternelle sur une population de plus de 20 000 individus concentrés au Québec et en Ontario. Mais les efforts des dernières années ont porté leurs fruits, croit Kasenenhawe Skydeer, qui a récemment créé un réseau linguistique et culturel, sorte de point de rencontre pour les différents organismes qui travaillent à revitaliser le Mohawk. C'est tout autour de nous, on entend des jeunes parler la langue avec des aînés. C'est l'aisance qui est difficile, car pour parler couramment, il faut parler, respirer, vivre la langue toute la journée, chaque jour, et c'est ce que nos ancêtres avaient, affirme celle qui a également appris à parler le Kanyenkera à l'âge adulte. Ça va prendre du temps. Ça a pris 150 ans avant d'arriver à ce point. Ça prendra un autre 150 ans pour revenir là où on était. Ça va arriver, tranquillement. Pendant ce temps, Kali Kariwiosta, mon tour, jongle toujours avec différentes idées, notamment celle d'installer des pancartes en Mohawk à l'intérieur des commerces. Elle aimerait aussi lancer un projet d'infolettre entièrement en Mohawk. Ne manque que le financement. Avec un peu de chance, on aura plus d'argent du gouvernement pour permettre de faire grandir nos projets. Mais ce n'est pas évident, dit-elle. Alors, c'est ce qui met fin à la première partie de l'émission. Au retour, je rappelle qu'on va parler de... De quoi vous allez nous parler déjà?
Moi, les huit produits qui soulignent l'unicité canadienne.
Ah oui, c'est ça, la fameuse unicité canadienne. J'ai vraiment...
Et également le marché Jean Talon.
Oui, le marché Jean Talon, bien sûr, qui est peut-être l'unicité de Montréal.
Oui.
C'est ça. Et puis moi, ben, je vais vous parler de la nature autochtone. Alors, on se retrouve après une courte pause.
Vous écoutez les voix de service.
Sleepless nights don't bother me at all. If dawn comes, I won't worry. Something deep inside keeps me awake. Wish that you were here right beside me. I recall when I was very young, could not go to sleep. My father sang me songs to make me tired. Memories don't make it easier. So good night. Wherever you are sleeping, and I hope that if you dream, you dream of me. Sleeping, I hope that if you dream, you dream.
it's no fun. Tossing and turning. Call you if it weren't so very late. Telephones don't bring you close to me. Stayed up late, wide awake, but still dreaming. There was nothing on this earth could make me tired. Memories don't make it easier. So
très belle chanson de Buffy Sainte-Marie, Good Night.
Un gros merci à M. Cavanagh, un de nos fidèles auditeurs qui m'a fait découvrir Buffy Sainte-Marie. Mm-hmm. Et maintenant, vous allez nous parler de
Marché Jean Talon.
Marché Jean Talon, oui, et là, j'ai oui. tout de suite envie de manger du maïs.
Alors, c'est un article qui était dans la presse de lundi, Presse Plus de lundi, un article d'Hélène André-Bizier, qui est auteure et consultante en histoire et qui s'intitule « Petite histoire du ventre de Montréal ». D'ailleurs, je vais vous réfléchir, je vais vous poser une question, puis vous allez réfléchir pour avoir la réponse. C'est qu'il y a quelque chose qu'on achetait dans les marchés dans les années, jusqu'aux années 30 ou 40 et qu'on ne retrouve plus aujourd'hui, mais qui était essentiel au bon fonctionnement dans la ville.
Pas la glace?
Non, pensez-y. Non, vous ne l'aurez pas.
Vous l'aurez
pas. Mais c'est tellement logique.
Il y avait des poules à l'époque.
C'est mais c'est tellement essentiel. Une fois qu'on dit, ben voyons, c'est vrai. Tu sais.
De l'eau?
Non. Non, en tout cas, je voyais l'article.
Alors,
vous
nous avez mis l'eau à la bouche, en tout cas.
Mais je vous dirais, c'est relié à la locomotion.
Bon, on continue voilà. de...
Alors, il y a 85 ans...
On avait du gaz.
Vous êtes pas loin.
Le charbon.
Pas loin. Pas loin.
Bon.
Arrêtez.
Alors,
bon.
Allez-y.
Réfléchissez sans m'interrompre. Il y a 85 ans, la plupart des marchés publics montréalais étaient situés dans ce qu'on appelait alors le bas de la ville. C'est-à-dire là où se croisaient les ouvriers d'origine rurale et les immigrants fuyant leur pays d'origine. Ils avaient en commun de ne pas dédaigner l'ambiance de ces marchés foisonnants de viande, poissons, fruits et légumes frais. Les épis de maïs, voilà.
Oui.
Pourtant, Montréal étant destiné à s'étendre, Montréal a donc éliminé ceux qui dérangeaient et en a créé de nouveaux, dont le célèbre marché Jean Talon, conçu pour l'ensemble des résidents de l'île qui apprirent à s'y rendre et qui veulent encore en profiter. Même si le gros des travaux a été achevé en 1936, le marché a été officiellement inauguré le 27 mai 1933. Il a d'abord porté les noms de Marché du Nord et de Marché Shamrock. Et après qu'il a vieilli, on l'a surnommé Village de Cabane.
Village de Cabane.
Oui. Au lendemain du krach du boursier du 24 octobre 1929, qui a entraîné l'Occident dans l'une des pires crises économiques de l'histoire, le chômage s'installe. Au Québec, la voix des édiles politiques et religieux invite les malheureux chômeurs à quitter les villes pour aller piocher des terres lointaines. Les mêmes influences auront plus de succès avec les programmes de travaux publics que subventionnés par les gouvernements fédéral et provincial. Le Québec s'enrichira de nombreux édifices publics. À Montréal, ouvriers et employés municipaux travailleront à l'unisson pour créer le jardin botanique.
Ah oui, c'est à cette époque-là.
Ben oui, redresser l'île Sainte-Hélène. Et le lac au Castor, sur le Mont-Royal, et redonner également du lustre au parc La Fontaine, ainsi qu'au réseau des marchés publics de Montréal. Le 19e siècle a vu naître et mourir plusieurs grands marchés publics, Marché Sainte-Anne, Vigée, Papineau, Saint-Gabriel, et La réponse à ce que je vous disais, les marchés à foin.
Ben oui, le foin relié au transport parce qu'on nourrissait les conducteurs.
Chevaux. Ben oui, donc ça prenait du foin pour nourrir nos chevaux qu'on avait souvent dans la cour des maisons.
Ben oui, forcément.
Ben oui.
Quand on était assez riche.
Évidemment. Et donc, le marché à foin, c'est un peu l'ancêtre des stations de service contemporaines.
C'est une belle façon de voir les choses.
Oui. Jusqu'en 1930, 5 marchés de denrées comestibles se sont partagés une clientèle fidèle. Bon Secours, Saint-Laurent, Saint-Jacques, Saint-Jean-Baptiste et Maisonneuve. La crise économique oblige toutefois Montréal à repenser la vocation de ces places publiques qui s'échelonnaient sur une ligne perpendiculaire au fleuve Saint-Laurent. Or, l'expansion du territoire montréalais, la cascade d'annexion des petites municipalités qui l'émaillent, l'expansion du réseau routier et la motorisation des transports ont entraîné le développement du centre et du nord de l'île. L'industrialisation a quant à elle accéléré la densification de la population ouvrière à proximité des usines et des petits commerces de l'est et de l'ouest de la vieille ville. De ces secteurs en expansion émanent régulièrement des pétitions de citoyens qui revendiquent le droit de s'approvisionner en produits agricoles frais. Les travaux subventionnés vont conduire à la rénovation des marchés Saint-Jean-Baptiste, Maisonneuve et Saint-Jacques, à la destruction du marché Saint-Laurent et à l'abandon du marché Bon Secours. Ces deux derniers seront remplacés par le marché Atwater, inauguré au mois d'avril 1933, et par le marché Jean-Talon, inauguré le 27 mai suivant. Le marché Jean-Talon, qui porte en fait le nom de marché du Nord, naît donc en pleine crise économique, parce qu'en 1933, on est encore dans la crise économique de 1929, qui a duré en fait jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on peut dire. Ce qui a reparti l'économie, c'est la Deuxième Guerre. À la fin de l'automne 1931, le conseil municipal autorise l'établissement d'un marché public dans un quartier en pleine expansion, formé d'une partie des quartiers Laurier, Hansic et Bordeaux. Des rues le quadrillent, d'autres sont planifiées, mais un seul quadrilatère semble convenir. Il s'agit du terrain de l'ancien parc et piste de course Shamrock, qui appartient à la ville et qui a été converti en terminus d'autobus. La ville exproprie ce terrain et complète le quadrilatère en achetant les bandes de terre bornant les rues Cassegrain et Henri-Julien. Au printemps 1932, la société Frenette Frères Limitée décroche le contrat de construction d'un chalet pour le marché du Nord au prix de 60 000 $. En 1934, avant même qu'il soit terminé, la ville confie à C. Perluzzi Construction la réalisation des premiers abris, l'installation des égouts, ainsi que le pavage des allées et des trottoirs. Quand les premiers marchands s'y installent, il n'est écrit nulle part qu'il est destiné à l'usage exclusif des résidents du quartier. Bien au contraire, il est le ventre de Montréal, un rôle qui sera accentué par la fermeture des vieilles halles. Semblable aux autres marchés montréalais de l'époque, le marché du Nord est exclusivement réservé aux cultivateurs, soit aux producteurs des paroisses agricoles de l'île, dont Saint-Laurent, Saint-Léonard-de-Port-Maurice, l'Île-Bizarre et l'ouest de l'île.
Donc, c'est pas n'importe qui pouvait y vendre ses produits, si je comprends bien.
Non, c'est
bien.
Réservé pour ces producteurs-là.
Les producteurs locaux. Donc, on achetait déjà local.
Ben oui. À ceux de l'île Jésus et de la Rive-Sud également. Les denrées cueillies à l'aube dans les Laurentides et la Naudière sont livrées quelques heures plus tard à la gare du Mile End. Ça doit être la gare Jean-Talon. Il répond aux besoins d'une clientèle mixte formée de Canadiens d'origine française et européenne qui réclament des produits frais, en particulier volailles et lapins, qui sont vendus vivants, abattus sur place selon les méthodes courantes, ou le rituel cachère et enveloppés dans du papier journal. Viande, fruits et légumes, marinade ou confiture, l'origine des produits est toujours la même. On ne vend que des aliments du Québec, artisanat compris. Les transactions sont libres de taxes directes. La seule règle imposée aux producteurs accrédités consiste à payer les taxes municipales et leur place au marché. La renommée du marché comme centre de distribution de produits régionaux demeure intacte jusqu'à la fin des années 50, quand un groupe de compétiteurs bien particuliers vient fouetter le sang des producteurs, déclencher une drôle de guerre et propulser à près de 400 le nombre de marchands représentés.
Oh, là, ça commence à être intéressant.
Ouais. Il s'agit de résidents d'origine italienne, surtout, qui profitent du potentiel des arrière-cours et des garages des maisonnettes situés dans les rues de Mazars et Jean-Talon pour y installer un marché périphérique. Alors, ces nouveaux marchands de fruits et de légumes échappent au règlement qui encadre l'institution et ils ne feront pas partie de la corporation du marché Jean-Talon, qu'il administre aujourd'hui, mais leur présence et les produits importés qu'ils réceptionnent et vendent ont fini par s'intégrer au marché du Nord. L'ouverture du marché métropolitain, qui est le marché central.
Ah, OK, qui est maintenant le marché.
Oui. Assène un autre coup aux producteurs dont la prospérité est sérieusement menacée par l'interdiction de vendre les animaux vivants sur les places publiques. En 1961, l'édifice principal du marché Jean Talon, le Chalet, est fermé. On y installe une succursale de la Bibliothèque de Montréal. En 1978, la plupart des abris du marché du Nord tombent en ruine. C'est pourtant l'heure choisie par les Montréalais pour redécouvrir les marchés publics et pour partir en croisade dans le but de les sauver. Le 7 avril 1982, le marché du Nord reçoit officiellement le nom de marché Jean Talon. C'est seulement en 82 qu'on a nommé ça officiellement le marché Jean Talon. On devait, entre nous, l'appeler le marché Jean Talon, mais officiellement... En novembre de la même année, on entreprend des travaux de réaménagement et on impose une première entrave à l'accès au marché, les parcomètres.
Ah oui.
Mille autres petites décisions auront pour effet de réduire quelques centaines les places de stationnement autour du marché et dans la petite Italie et d'inquiéter ceux qui nourrissent les Montréalais. Et voilà.
Merci beaucoup, Serge. J'ai encore envie de manger du maïs.
Oui.
Oui, et comme me faisait remarquer Maurice, il faut encore attendre si on veut acheter du blé d'Inde local, puisqu'on parlait de nourriture locale. Et moi, je vous parle non pas de nourriture, mais de nature. Explorer la nature autochtone, c'est un article que j'ai pris dans Le Devoir, qui a été publié le 23 juin et qui est signé Nathalie Schneider. Quand on fait du canot avec un membre des Premières Nations, celui-ci a toujours des histoires à raconter entre chaque coup de rame. Souvent en peu de mots, mais assez pour que vous attrapiez quelques images au vol. Ici, mon grand-père venait pêcher le saumon. On le faisait fumer pendant des heures. Toutes les familles se rassemblaient sur cette pointe pour passer l'été. 6 000 ans qu'ils occupent le territoire, alors pas de presse. Le visiteur prendra le temps de découvrir les traditions, mais aussi les réalités autochtones d'aujourd'hui. Le tourisme est une façon de réaffirmer nos traditions et nos valeurs, explique le très coloré André Mowat de la communauté Anishinaabe de Picogan en Abitibi et responsable de l'entreprise écotouristique Bercée par l'Arikana, du nom de la rivière patrimoniale qui coule du lac Blouin à la baie James. Le guide est de tous les salons touristiques, de tous les forums depuis longtemps. Lancez-le sur le sujet et vous serez séduit par sa connaissance affûtée du territoire et par la qualité du service que sa communauté offre pour la partager avec les visiteurs. Quelques heures ou quelques jours passés sur l'Arikana, ce trait d'union entre les communautés algonquines et vous voilà conquis. Durant la descente, on multiplie les arrêts pour s'enfoncer dans le bois et découvrir les restes d'un campement traditionnel et entendre des histoires de chasse et de pêche miraculeuses ponctuées bien souvent de rires. Nos guides sont formés par des archéologues sur l'histoire de l'occupation du territoire. Ils sont aussi formés en secourisme. On dort sous la tente ou le tipi, on regarde les femmes vider l'esturgeon ou cuire l'orignal sur la braise, et on repart avec le sentiment d'avoir entrebâillé une porte sur l'inconnu. Une partie de pêche dans une pourvoirie inoue décipite sur la côte nord, une descente de la rivière du Moine avec des Anishinaabés de Wolf Lake, une randonnée d'interprétation avec les Abénakis d'Odanak. Qu'importe l'activité qu'on pratique, pourvu qu'elle soit encadrée par des guides autochtones des communautés locales, et qu'elle traduise une expérience authentique, ancrée dans la réalité. Pas de folklore ni de travestissement, insiste Jason Picard-Binet, conseiller à Aventure Autochtone Québec, l'organisme chargé de promouvoir l'offre des Premières Nations. Nous voulons que le tourisme traduise ce que nous sommes, 11 nations avec 11 cultures distinctes. Le tourisme doit donc se fonder sur la réalité, pas sur le mythe, si séduisant soit-il. Le temps où l'on venait voir l'Indien à plumes dans son tipi est révolu. Aujourd'hui, c'est la réalité que le visiteur aura à cœur de découvrir. Une réalité pas toujours rose, mais souvent porteuse d'apprentissage. D'ailleurs, si les Québécois étaient, il y a une dizaine d'années, encore minoritaires, ils représentent aujourd'hui 50% de ceux qui visitent les communautés à des fins touristiques. surtout les plus jeunes pour qui l'histoire des premiers occupants était désormais intégrée dès le plus jeune âge à leur cours d'histoire. Pour tous les promoteurs autochtones, l'échange entre visiteurs et réceptifs est gagnant-gagnant, du genre qui profite à tous. Partager les traditions, activités, langues, histoire, arts, revient à réactiver les coutumes auprès des jeunes de la communauté, souvent employés comme guides, et parfois un peu déconnectés du savoir ancestral. Bref, en donnant aux jeunes la mission de nous expliquer leur culture, ça leur permet ou ça les oblige à se rapprocher de leur propre culture. Alors, effectivement, c'est gagnant-gagnant. Car au-delà des échanges réciproques, c'est bien souvent la fierté autochtone que le tourisme parvient à rallumer. Le défi, c'est d'amener les jeunes des communautés à découvrir l'éventail des possibilités en tourisme, explique Jason Picard-Binet. Ils ont étudié à l'école et sont souvent plus attirés par une carrière dans les entreprises minières ou forestières. Il y a un travail de sensibilisation à faire de ce côté. Cette résurgence de la fierté culturelle vient aussi avec une certaine réappropriation territoriale et sert bien souvent de socle à la protection d'un territoire naturel ancestral dans la mire des industries minières ou forestières. Parlez-en aux cris de Waswanipi, qui ont organisé en 2015 une expédition des jeunes de la communauté en canot sur la rivière historique Broadback en contestation à un projet de coupe forestière sur ses berges. Mais pour le visiteur, il convient d'accepter les règles du tourisme autochtone, plus expérience que produit, en faisant preuve de flexibilité et d'une certaine ouverture d'esprit. Même si, insiste Jason Picard-Binet, le tourisme autochtone est au travail côté normes professionnelles avec des lignes directrices nationales qui répondent aux exigences du tourisme international et de la réalité autochtone. Oubliez les horaires figés et les produits formatés. S'aventurer dans l'univers des Premières Nations en pleine nature suppose de lâcher prise côté planification et d'adopter sans broncher l'espace-temps de la nature. Caprices de la météo, passage d'animaux, rencontres inopinées. Un caribou qui passe dans la mire de la lunette d'optique ou une aurore boréale qui se déploie et voilà que le plan initial vient de prendre une autre tournure. La beauté de la chose, c'est de se plier à ces impératifs en remerciant le destin. Sur les 222 expériences à vivre au Québec dans les communautés autochtones, tant écotouristiques que culturelles, pow-wow, expositions, hébergements, l'invitation est lancée pour aller à la rencontre des premiers peuples du territoire. Et en fin d'article, on nous propose quelques nouveautés cette année à Nouchimiwinou, à Oujibougoumou, je pense que c'est dans la baie James, d'après ce que j'ai pu découvrir. Alors, on marche en forêt, observation de la faune, pêche du doré, cuisson de la bannique, nuit en chapoutouane. Chapoutouane, ça doit être une sorte de... j'ai pas tout cherché. L'entreprise appartient à deux aînés de la communauté. Il y a aussi Chami Adventures à Weminji, qui est aussi dans la baie James. Alors, au cœur de la forêt boréale, expérience entre la baie d'Ungava et la baie James, observation de caribous, des aurores boréales, navigation en rivière, raquette en hiver. En Mauricie, maintenant, au nord de la TUC, le domaine Notsimik, séjour avec les Atikameks en tipi ou prêt à camper traditionnel, rencontre autour du feu avec un aîné de la communauté, Marcel Petitcoué, qui relate les légendes autochtones, mais aussi l'histoire des pensionnats. Transfert du savoir, de la spiritualité, le cercle des guérisons et le rapprochement avec les Blancs. Il y a aussi dans la même région de la TUC, le club Odanak. La pourvoirie n'est pas nouvelle, mais revoit ses forfaits, notamment avec l'interprétation des plantes médicinales. Ça peut être très intéressant. Dans l'Anaudière, finalement, un petit peu plus près de nous, si vous êtes à Montréal, Amishk, aventure amérindienne à Saint-Calixte, expérience immersive avec guide autochtone dans le parc régional Montcalm, atelier d'artisanat, randonnée, pêche, observation de la faune, hébergement en tipi ou en tente prospecteur. Et si vous voulez plus d'informations, vous pouvez aussi aller sur tourismeautochtone.com. Et maintenant, vous allez nous parler de cette fameuse unicité, et puisqu'on vient de parler un peu de la dualité, puisqu'on on partage le territoire avec les Premières Nations. Maintenant, vous nous parlez de l'unicité du Canada.
Au moyen d'un jeu questionnaire amusant, paru lundi dans la Presse Plus. Alors, écoutez bien, Isabelle, notre amie en régie.
Je vous écoute.
Bien tout le monde. Question 1. Cette entreprise, fondée en 1922, permet aux Canadiens d'acheter une foule de choses que certains pourraient qualifier d'hétéroclites. Mais ça fonctionne. La chaîne compte pas moins de 1700 points de vente d'un océan à l'autre, en incluant toutes ses enseignes. Pourtant, deux tentatives d'expansion aux États-Unis ont échoué. Au début des années 80, l'entreprise a acquis une chaîne établie au Texas qui lui a fait perdre 300 millions en 3 ans et qui a été revendue rapidement. En 1990, des magasins ont été ouverts dans la région d'Indianapolis et ont été fermés au bout de 5 ans, faute de rentabilité. Oseriez-vous une réponse?
Canadian Tire?
Ben oui, c'est ça!
J'essaie de penser à une compagnie qui existe encore, qui serait là depuis 1922, parce
bravo,
que Sears,
bravo.
Ça fait plus longtemps que ça, je pense. Ou,
Sears, oui. Même pas besoin d'indices, plus. Vous l'avez eu.
Ben là, j'ai été vraiment chanceuse.
Alors, deuxième question. Il s'agit d'une boisson. Cette boisson a été créée en 1904 à Toronto par John G. McLaughlin. Pharmacien et chimiste, il avait ouvert une usine d'eau gazéifiée après avoir travaillé dans une usine de boissons gazeuses dans l'État de New York. Le produit a obtenu tellement de succès à New York que M. McLaughlin y a construit une usine. On raconte que la popularité de la boisson a explosé pendant la Prohibition puisqu'elle masquait le mauvais goût de l'alcool maison. Au fil des décennies, la boisson a changé de main plusieurs fois. Aujourd'hui, elle est fabriquée par Dr. Pepper Snapple Group au Texas et commercialisée un peu partout dans le monde avec une carte du Canada dans son logo.
Ah oui.
Facile,
ça. Attendez, le Dr. Pepper, est-ce que c'est la root beer, ça?
Coca-Cola?
Ou... Non. Non, bien, c'est ça. Ça a été inventé au Canada.
La carte du Canada.
Mais ça pourrait être
comme
le Canada Dry, là, le ginger ale.
Ah, parce que ça existe plus, juste pour l'anecdote. Je viens de Saguenay-Lac-Saint-Jean et nous, dans la région, on avait le Saguenay Dry.
Wow! Oh là 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 là!
Ça, c'est vraiment du nationalisme local.
Les Canadiens ont découvert cette marque en 1959. Loin d'être démodée, elle demeure l'une des plus emblématiques et des plus vendues au Canada.
1959?
59, oui.
D'accord.
Elle demeure l'une des plus emblématiques et des plus vendues au Canada, selon le fabricant. Une entreprise montréalaise fondée en 1786. Donc, une entreprise qui a...
Ça a été fondé en 1786, mais on l'a découvert
l'entreprise
en
1959. Oui,
qu'est-ce qui s'est passé en 1959 pour que tout à coup...
Au fil des ans, quelques déclinaisons ont été mises en marché, dont une qui se servait en dessous du point de congélation, mais qui n'existe plus. On se rappelle aussi que pour en mousser les ventes, un 1er juillet, des frigos rouges arborant une feuille d'érable et remplis de bouteilles ont été placés un peu partout au pays. Il fallait chanter l'hymne national pour que la porte s'ouvre.
Hey boy, que t'es vendu sous...
C'est une bière.
Ah, c'est une... OK. Ouais. On a déjà vendu une bière qui était servie sous zéro.
Ça, oui, c'est
vraiment intéressant.
Ouais. Alors, il s'agit de la Molson Canadian.
Ah, mais oui.
Canadian Molson.
Mais oui, je viens juste de voir une exposition sur la bière en plus.
Ben oui.
Puis Molson, c'est tellement...
je ne sais pas, il me semble que c'est celle-là, Canadian Molson, qui avait été classée en Grande-Bretagne. Il y avait eu un concours à l'aveugle de dégustation. Et cette bière, je pense que c'est celle-là qui avait été classée comme la meilleure.
Je sais qu'ils ont gagné des prix, oui. En tout cas, mais je sais pas, c'était dans leur catégorie sûrement, parce que s'ils avaient été en catégorie avec des bonnes bières, bon, okay, je ne devrais pas dire ça, mais moi, la Molson canadienne, je sais pas, j'en ai vu une fois, puis...
Alors, une marque maintenant. Rares sont les marques qui peuvent se vanter d'avoir une chanson qui porte leur nom. Celle-ci en a au moins deux, signée Pressa et Lil Uzi Vert. Créée par un immigré polonais en 1957, la marque s'appelait à l'origine Metro Sportswear. Le nom actuel a été adopté au début des années 90. L'expansion 90. Internationale et la popularité ont même explosé à Paris, où la météo clément ne justifie pas un tel achat. Les jeunes, oui, parce que c'est un vêtement qui est assez chaud.
Oui, oui, oui.
Les jeunes Canadiens ont pour leur part cessé de rechigner à l'idée de s'habiller chaudement grâce au design attrayant de ces collections. Est-ce l'effet Kate Upton, qui a utilisé un survêtement de cette marque pour cacher en partie ses seins nus dans le magazine Sport Illustrated? Désormais cotée en bourse, l'entreprise a commencé à ouvrir ses propres magasins.
C'est pas un Canada Goose?
C'est... Exactement, Isabelle!
C'est vrai que ça, à un moment donné, ça a explosé, on s'est mis à en voir partout. Surtout, c'était des Français, effectivement, qui les portaient.
Est-ce qu'on a le temps pour une ou deux?
Oui, on a le temps encore pour une autre.
Une ou moins, bon.
Allez-y.
Voici un produit phare du Canada. que les Autochtones aimaient déjà lors de l'arrivée sur le territoire des Européens.
Ah, je sais.
C'est quoi?
La bière d'épinette?
Oh non!
Non, ça n'a pas rapport. OK. Ça n'a pas rapport avec les sapins?
Non, non, non. Et dont la recette n'a pas changé au fil des siècles.
Sirop d'érable.
Ah, ben oui, c'est vrai. Je suis vraiment,
le sirop d'érable.
Vraiment stupide avec ma bière d'épinette. Le sirop d'érable, ça, c'est le produit emblématique, si vous me posez la question.
Ouais. Et on dit que les Japonais... Les Japonais en raffolent, hein?
Ah oui. Ben, qui peut ne pas aimer une fois qu'on y a goûté? Une fois qu'on y a goûté, vous essayez de nous servir autre chose, le sirop de poteau. Là.
Et on produit 70 % de la production mondiale. Ça vient du...
70 %
ouais,
hein?
C'est énorme.
Eh bien, c'est notre produit emblématique. Et c'est sur cette note que se termine l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Maurice Bolduc à la mise en onde et aux choix musicaux. Merci Serge Bradet.
Plaisir comme
toujours. On espère retrouver Daniel Lachance la semaine prochaine. Et moi-même, Isabelle Falardeau, je vous souhaite bonne journée.